Badreddin Hassan changea de visage lorsqu'il reconnut que la dame qui lui parlait était cette charmante personne avec laquelle il se souvenait d'avoir couché. Il entra dans la chambre, mais au lieu d'aller au lit, comme il était plein des idées de tout ce qui lui était arrivé depuis 10 ans, et qu'il ne pouvait se persuader que tous ces événements se fussent passés en une seule nuit, il s'approcha de la chaise où étaient ses habits et la bourse de sequins, et après les avoir examinés avec beaucoup d'attention, « Par le grand Dieu vivant » s'écria-t-il, « voilà des choses que je ne puis comprendre !» La dame, qui prenait plaisir à voir son embarras, lui dit « Encore une fois, Seigneur, venez vous remettre au lit, à quoi vous amusez-vous » À ces paroles, il s'avança vers Dame de Beauté. « Je vous en supplie, madame, lui dit-il, de m'apprendre s'il y a longtemps que je suis auprès de vous. » « La question me surprend, répondit-elle. Est-ce que vous ne vous êtes pas levé d'auprès de moi tout à l'heure? Il faut que vous ayez l'esprit bien préoccupé. »« Madame, reprit Badreddin, je me souviens, il est vrai, d'avoir été près de vous, mais me souviens aussi d'avoir depuis demeuré 10 ans à Damas. Si j'ai, en effet, couché cette nuit avec vous, je ne puis pas en avoir été éloigné si longtemps. » Ces deux choses sont opposées. Dites-moi, de grâce, ce que j'en dois penser. Si mon mariage avec vous est une illusion, ou si c'est un songe que mon absence. Oui, Seigneur, repartit Dame de Beauté, vous avez rêvé, sans doute, que vous aviez été à Damas. Il n'y a donc rien de si plaisant, s'écria Badreddin en faisant un éclat de rire. Je suis assurée, madame, que ce songe va vous paraître très réjouissant. Imaginez-vous, s'il vous plaît, que je me suis trouvée à la porte de Damas, en chemise et en caleçon, comme je suis en ce moment. Que je suis entrée dans la ville, aux huées d'une populace qui me suivait en m'insultant. Que je me suis sauvée chez un pâtissier qui m'a adoptée, m'a appris son métier et m'a laissé tous ses biens en mourant. Qu'après sa mort, j'ai tenu sa boutique, enfin madame. Il m'est arrivé une infinité d'autres aventures qui seraient trop longues à raconter. Et tout ce que je puis vous dire, c'est que je n'ai pas mal fait de m'éveiller. Sans cela, on m'allait clouer à un poteau. Et pour quel sujet ? Dit Dame de Beauté, en faisant l'étonner. « Voulait-on vous traiter si cruellement ? Il fallait donc que vous eussiez commis un crime énorme. »« Point du tout !» répondit Badreddin. « C'était pour la chose du monde la plus bizarre et la plus ridicule. Tout mon crime était d'avoir vendu une tarte à la crème où je n'avais pas mis de poivre. » « Ah, pour cela, dit Dame de Beauté, en riant de toute sa force, il faut avouer qu'on vous faisait une horrible injustice. » Badreddin ne passa pas tranquillement la nuit. Il se réveillait de temps en temps et se demandait à lui-même s'il rêvait ou s'il était éveillé. Il se défiait de son bonheur et, cherchant à s'en assurer, il ouvrait les rideaux et parcourait des yeux toute la chambre. « Je ne me trompe pas, disait-il. Voilà la même chambre où je suis entré à la place du bossu. Et je suis couché avec la belle dame qui lui était destinée. » Le jour, qui paraissait, n'avait pas encore dissipé son inquiétude. Lorsque le vizir Shamseddin Mohammed, son oncle, frappa à la porte et entra presque en même temps pour lui donner le bonjour. Badreddin Hassan fut dans une surprise extrême de voir paraître subitement un homme qu'il connaissait si bien, mais qui n'avait plus l'air de ce juge terrible qui avait prononcé l'arrêt de sa mort. « Ah, c'est donc vous » s'écria-t-il, qui m'avait traité si indignement et condamné à une mort qui me fait encore horreur pour une tarte à la crème où je n'avais pas mis de poivre. » Le vizir se mit à rire et, pour le tirer de peine, lui conta comment, par le ministère d'un génie, il s'était trouvé chez lui et avait épousé sa fille à la place du palefrenier du sultan. Il lui apprit ensuite que c'était par le cahier écrit de la main de Nourdin Ali qu'il avait découvert qu'il était son neveu et enfin, il lui dit qu'en conséquence de cette découverte, il était parti du Caire et était allé jusqu'à Balzora pour le chercher et apprendre de ses nouvelles. « Mon cher neveu, ajouta-t-il, en l'embrassant avec beaucoup de tendresse, je vous demande pardon de tout ce que je vous ai fait souffrir depuis que je vous ai reconnu. J'ai voulu vous ramener chez moi avant que de vous apprendre votre bonheur que vous devez trouver d'autant plus charmant qu'il vous a coûté plus de peine. Consolez-vous de toutes vos afflictions par la joie de vous voir rendu aux personnes qui vous doivent être le plus cher. Pendant que vous vous habillerez, je vais avertir votre mère, qui est dans une grande impatience de vous embrasser, et je vous amènerai votre fils, que vous avez vu à Damas, et pour qui vous vous êtes senti tant d'inclination. sans le connaître. Il n'y a pas de paroles assez énergiques pour bien exprimer quelle fut la joie de Badreddin lorsqu'il vit sa mère et son fils, Hajib. Ces trois personnes ne cessaient de s'embrasser et de faire paraître tous les transports que le sang et la plus vive tendresse peuvent inspirer. La mère dit les choses du monde les plus touchantes à Badreddin. Elle lui parla de la douleur que lui avait causée une si longue absence et des pleurs qu'elle avait versés. Le petit Hajib, au lieu de fuir comme à Damas les embrassements de son père, ne se lassait point de les recevoir. Et Badreddin Hassan, partagé entre deux objets si dignes de son amour, ne croyait pas leur pouvoir donner assez de marques de son affection. Pendant que ces choses se passaient chez Shamsuddin Mohammed, ce vizir était allé au palais rendre compte au sultan de l'heureux succès de son voyage. Le sultan fut si charmé du récit de cette merveilleuse histoire qu'il la fit écrire pour être conservée soigneusement dans les archives du royaume. Aussitôt que Shamsuddin Mohammed fut de retour au logis, comme il avait fait préparer un superbe festin, il se mit à table avec sa famille et toute sa maison passa la journée dans de grandes réjouissances. « Mais sire, » ajouta Scheherazade, remarquant que le jour commençait à paraître, « quelque agréable que soit l'histoire que je viens de raconter, j'en sais une autre qui l'est encore davantage. Si votre majesté souhaite de l'entendre la nuit prochaine, je suis assurée qu'elle en demeurera d'accord. » Shahriar se leva sans rien dire et fort incertain de ce qu'il avait à faire. « La bonne sultane, dit-il en lui-même, raconte de fort longues histoires et, quand une fois elle en a commencé une, il n'y a pas moyen de lui refuser de l'entendre tout entière. Je ne sais si je ne devrais pas la faire mourir aujourd'hui. Mais non, ne précipitons rien. L'histoire dont elle me fait fête est peut-être plus divertissante que toutes celles qu'elle m'a racontées jusqu'ici. Il ne faut pas que je me prive du plaisir de l'entendre. Après qu'elle m'en aura fait le récit, j'ordonnerai sa mort. » La nuit suivante, Dinarzade ne manqua pas de réveiller avant le jour la sultane des Indes, laquelle, après avoir demandé à Shahriar la permission de commencer l'histoire qu'elle avait promis de raconter, prit ainsi la parole.